Eh bien, c'est dans la joie qu'on va accueillir Alain pour nous partager la parole de Dieu concernant notre Sauveur et son nom admirable. Sois le bienvenu, Alain. Que je peux prier pour toi avant de te donner la parole. Seigneur, quel privilège! Quel privilège de pouvoir encore une fois entendre ta parole et quel privilège d'avoir Alain avec nous. Merci Seigneur de ce qu'il a répondu à l'invitation. Merci pour son cœur. Merci pour les paroles que tu as mises dans son cœur. Merci pour les révélations que tu vas encore nous donner au travers de sa bouche. Merci de ce que tu viens encore nous rencontrer ce matin. Saint-Esprit, je te demande le renouvellement de ton onction sur Alain. Je te demande de mettre ton doigt sur sa bouche pour que ce soit tes paroles qui sortent. Je te demande qu'il ait la facilité. Je te demande qu'il soit revêtu de toi, de puissance, d'autorité, de sagesse, de discernement, de révélation. Qu'il soit caché en toi, Jésus, sous ton sang, ainsi que toute sa famille. Et je te demande aussi, Saint-Esprit, de disposer nos cœurs pour qu'on puisse recevoir ce que tu veux nous dire à chacun de nous. Merci Seigneur. Amen.
Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Après plus de 2 ans de disette, mais je crois que c'était bon. Je crois que c'était bon de vivre cette coupure, de passer à autre chose, comme on dit. Mais dans le cœur, il y avait toujours une place pour vous, pour la Chaux-de-Fonds, pour l'Église. Et on s'est dit, voilà Seigneur, quand le temps viendra, on sera là et on est là, donc ça nous fait très plaisir de vous retrouver ce matin. Et en plus c'est un cadeau, parce que quand j'ai reçu le coup de fil de Florence qui me demandait si c'était possible de venir le 22, je me suis dit oulala, ça va être compliqué. Et puis non, c'est pas compliqué quand le Seigneur décide quelque chose. Voilà. Donc voilà, on est dans cette période, bien sûr, de Noël, qu'on aime, et on aime à rappeler chaque année. Je me disais, c'est, je sais pas, peut-être le 50e ou 60e, ou pour les plus âgés d'entre nous, c'est des Noëls, et chaque fois, c'est la même histoire, mais chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de renouvelant, il y a quelque chose de bienfaisant. Donc, jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, je crois qu'il est important de pouvoir se rappeler ces moments incroyables où, voilà, Dieu se fait homme, ça dépasse l'entendement, ma petite intelligence. Donc je dis ces choses par la foi, mais elles sont vraies, c'est la vérité. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager au travers de certaines paroles de l'Écriture, et j'aimerais mettre un accent tout particulier. En fait, c'est ce que j'ai reçu quand j'étais en train de prier. Là, je dis, Seigneur, mais voilà, je ne veux pas reprendre un vieux message, même si voilà, ils oublient à part Thierry, parce que lui, il n'oublie pas. Je dis, là, t'es coincé quand tu vas à la Chaux-de-Fonds, parce qu'il va te dire, non, mais t'as prêché ça. Je dis, bon, alors là, il faut que je trouve quelque chose de nouveau, hein, parce que, hein, Thierry, bon. Et je suis tombé sur ce passage que j'ai lu des dizaines de fois, mais il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et là, tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'avais en moi le nom le plus élevé de toute l'histoire de l'humanité et que personne ne pourra dépasser. Et j'ai dit, ça, il y a quelque chose là-dedans. Il y a vraiment de la matière, il y a de la substance. Et je me suis plongé là-dedans. Alors c'est vrai, c'est des passages qu'on connaît. Mais le fait de se les rappeler font qu'on se maintient dans cette réalité-là, dans cette vie-là. Parce que c'est des paroles qui ont une puissance. C'est pas juste des paroles qu'on lit une fois comme le journal. Voilà, on lit un article, on passe au suivant. Là, c'est quelque chose qui nourrit notre âme, qui nourrit notre espérance, qui nourrit notre foi. Et j'aimerais donc vous partager cela ce matin sur le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, on va lire, bien sûr, dans Philippiens, au chapitre 2, verset 9, ce passage-là spécifique. Alors, je ne vais pas tout lire parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais à partir du verset 9. Donc, il est parlé de la venue de Jésus, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant. C'est incroyable de se dire, Jésus accepte de s'humilier, de se rendre obéissant dans la peine qu'on a, nous, être obéissant. Et à cause de cela, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On se demande ce qu'il y a sous la terre, les petits vers qui plient le genou. En fait, non. Et que toute langue compte. Non, mais c'est rigolo quand on lit des choses, on se dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir sous la terre, hein? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et puis ce passage, alors hyper connu, qu'on a d'ailleurs rappelé ce matin, Ésaïe 9:6. Eh oui, c'est on l'appellera, hein, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, un enfant nous est né. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors j'aimerais me plonger d'abord avec vous dans une expérience assez incroyable que Moïse a vécue alors qu'il s'est évadé, échappé de l'Égypte, qu'il a vécu dans ce désert, s'occupant des troupeaux de son beau-père. Et en Exode 3, au chapitre 3, donc versets 1 à 6, il est dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Continue. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et puis après, Dieu lui révèle tout le programme qu'il a et dans lequel il va insérer en fait Moïse. Et Dieu lui dit à ce moment-là, « Écoute, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Bon, jusque-là, ça va, hein? Moïse, il écoute. Surtout qu'il a dit « Je suis descendu ». Bon. Maintenant va, je t'enverrai. Oups. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Là, il commence vraiment d'avoir les chocottes, hein. C'est vraiment. Mais Moïse dit à Dieu, oui, qui suis-je? Et Dieu dit, mais Moïse, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, bon ben, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères, il ne dit pas de nos pères, hein, de vos pères, m'envoie vers vous. Mais s'il demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Quel est son nom? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. On connaît tous l'importance des noms, n'est-ce pas? On attache une importance énorme. On le voit quand on parle avec un jeune couple, voilà, qui attend un enfant. On dit, vous avez déjà trouvé un prénom? Ah, mais il y a des gens qui attendent jusqu'au dernier moment, la révélation ultime. Et on voit, on sent qu'il y a quelque chose dans un prénom. Le psychanalyste Freud disait d'ailleurs que le nom d'un être humain était une composante essentielle de sa personne et peut-être même le fragment ou un fragment de son âme. Dans l'Égypte antique, en Afrique noire, quand on nommait quelqu'un, cela signifiait qu'on donnait vie à cette personne. Et c'est vrai que lorsqu'on vient au monde, eh bien, on n'est qu'un corps anonyme. On a vu ces magnifiques images, merci pour le petit film, mais on est un corps anonyme. On n'a pas encore de nom. Et l'attribution d'un nom nous permet d'exister. Je suis, oui, Alain. Je suis Yves. Et vous avez remarqué que souvent, lorsque on découvre une personne, la première chose qu'on lui demande, c'est « Quel est ton nom ? Comment est-ce que tu t'appelles ?» C'est déjà, c'est un peu la porte d'entrée de sa vie. Après, on lui dira « Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et puis, on continue et on apprend à connaître cette personne parce qu'on connaît son nom. Et se souvenir du nom de la personne qui est en face de nous, c'est lui dire « Je me souviens de toi ». C'est lui dire « Je te reconnais, tu n'es pas anonyme ». Alors imaginez le stress du pasteur quand il arrive dans une nouvelle église. En 1996, je me tiens devant là, vers la porte d'entrée, et des dizaines de personnes passent. « Bonjour, bonjour Monsieur Calam, bonjour Monsieur Goya, bonjour Madame Fous, bonjour, bonjour, bonjour ». Et moi j'essaye d'intégrer tout ça. Ah, quel stress! Dimanche après dimanche, deux semaines après, trois semaines après. Mais il ne faut pas m'appeler Calam, moi je suis Jean. Ah bon, ah Jean, alors. Ah, moi c'est Colette. Moi c'est ça. Je peux vous dire que, bon, ben, vous ne le remarquez pas, hein, mais c'est le stress complet. Parce que on a envie, quand on voit un visage, de lui dire son prénom. Bienvenue Jean-Pierre. Hein, c'est hello, salut, bienvenue. C'est autre chose quand même. Hein. Donc on donne une importance à la personne. Carl von Linné, qui était un naturaliste suédois, a dit « La connaissance des choses périt par l'ignorance du nom. » Si vous ne connaissez pas le nom, ça périt, ça disparaît. Ça disparaît de votre vie, ça disparaît de la réalité de ce monde. Donc, la connaissance des choses périt par l'ignorance du nom. Alors, lorsque Dieu se révèle à Moïse et l'informe de ses plans concernant Israël, c'est la première question que Moïse pose. Mais attends, mais quel est ton nom? Au nom de qui est-ce que je vais aller devant Pharaon? Lui connaît celui qui tient son peuple dans l'esclavage depuis tant d'années. Pharaon. Pour Moïse, s'il y a une hiérarchie des noms, celui de Pharaon figure en tête de liste. Il sait à qui il a affaire. C'est l'homme fort du moment. Et sa carte de visite est absolument impressionnante. Il est souverain de l'Égypte, ayant un droit absolu sur chacun de ses sujets. Il est l'administrateur général, il est le chef des armées, il est le premier magistrat, il est le prêtre suprême. Son pouvoir sur l'Égypte est d'origine divine. Donc, plus que Poutine. Il est l'intermédiaire entre le peuple et les dieux. Il est le fils de Ra, le dieu soleil. On croyait à ce moment-là que le soleil était l'œil de Dieu, de Ra, qui nous regardait. L'œil de l'Éternel est sur toi, hein, l'œil de Ra est sur toi à l'époque. Il était le représentant d'Horus, dieu de l'ordre et de l'harmonie universelle. N'en jetez plus, la carte de visite est pleine. Et Moïse est tout à fait conscient à ce moment-là que c'est cet homme-là qu'il va rencontrer. C'est vers cet homme que Dieu l'envoie. Il le connaît de fond en comble, plus que Dieu. Parce que pour Moïse, Dieu est un inconnu. Il ne l'a jamais rencontré, il ne sait pas, qui il est en fait. Moïse ignore tout de « je suis ». Il ne sait pas qui il est. Alors on peut comprendre son scepticisme, ses appréhensions, ses craintes. Bon, c'est vrai qu'il y a l'épisode du buisson ardent, qui devait être quand même assez extraordinaire, mais là encore, Moïse a eu tout loisir de voir les sages enchanteurs et magiciens de l'Égypte qui n'étaient pas en reste. Vous vous rappelez des diplés, hein? Ils en connaissent aussi des petites combines, les magiciens, les enchanteurs. Donc Moïse ne peut faire qu'une seule chose à ce moment-là, c'est faire confiance à Je suis. On verra bien. On verra bien. Mais bien sûr qu'il va recevoir cette capacité. Dieu qui crée le vouloir et le faire va lui donner la force d'aller à la rencontre de ce pharaon. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Je suis ne va pas le décevoir, ni lui, ni le peuple d'Israël. Et Pharaon va apprendre à ses dépens qu'il n'est pas le Seigneur tout-puissant qu'il croyait être, qu'il n'est qu'un mortel parmi les autres. Bon, il a beau faire l'ignorant, hein, gars. Exode 5, 2. Qui est l'Éternel? Pardon. Pour que j'obéisse à sa voix en laissant à l'Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. Ok. Ainsi parle l'Éternel. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Exode 7, 5. Et le psalmiste, au psaume 33, verset 8, dira « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et les choses arrivent. Il ordonne et elles existent. » Oh, c'est du sérieux. Et en effet, je suis accompli ce qu'il avait promis. Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession. Ça, c'est une déclaration, hein? Et ils peuvent s'appuyer sur cette déclaration, ben, que rien ne se soit passé encore à ce moment-là. Alors, Dieu va se faire un nom. Dieu se fait un nom au sein du peuple d'Israël et aussi aux yeux des Égyptiens et même au-delà. Et cela va inspirer un cantique que Moïse et tout le peuple va chanter d'un seul cœur, comme on l'a fait ce matin, en Exode 15, à partir du verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Et au verset 3, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Voyez maintenant, ils se sont appropriés en fait le nom de Dieu maintenant. Et ils vont à la rencontre des circonstances, des situations, avec cette certitude qu'ils le font au nom de l'Éternel. Magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, enfin, on sait à qui on a affaire. On n'est plus dans cette ignorance dont parlait Carl von Linné qui conduit au dépérissement. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël dépérissait. Ils avaient comme oublié, ils étaient devenus comme amnésiques du nom de Dieu. Ce nom puissant, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est comme s'ils avaient oublié ce nom et ils dépérissaient. Et ils peuvent désormais s'appuyer sur le Dieu tout-puissant. Alors si Dieu s'est fait connaître sous le nom de « Je suis », il va tout au long de l'histoire quand même assez tumultueuse du peuple d'Israël se faire connaître sous bien d'autres noms. À chaque situation nouvelle, il va révéler comme une facette de qui il est en vérité, comme si on ajoutait une pièce de puzzle à une autre pour avoir une image complète. Vous vous rappelez certainement de ce chant de Jeunesse en mission, le 276, qui dit « Qui donc dans le ciel est semblable à toi ?» Vous voulez le chanter ? Amen. Allez, on se lève, ça fait du bien. Après, on peut se rasseoir pour la suite.
Est semblable à toi qui est
Voilà, donc au gré des situations, des circonstances de la vie du peuple d'Israël, ils vont découvrir ces différentes facettes de Dieu. Et bien sûr que c'est impressionnant parce qu'ils découvrent dans le fond qu'il répond à tout, qu'il est vraiment ce Dieu tout-puissant, il est celui qui pourvoit, qui guérit, qui entend, qui répond. Et ça, ça devait être quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils n'avaient pas affaire à un Dieu comme les nations païennes qui les entouraient. Pardon. Amen. Seigneur, touche ce frère. Vraiment, bénis-le. Ouais. Donc, ils vont expérimenter ces choses-là. Et là, on arrive maintenant au cœur, en fait, du message. On aurait pu penser, effectivement, qu'après toutes ces révélations de Dieu, cela aurait dû suffire, en fait, pour le connaître. Savoir qui ce « je suis » est. Mettre des noms encore sur ce « je suis ». On aurait pu penser qu'il avait donné assez d'éléments de qui il est pour que Israël puisse enfin s'attacher à lui, lui faire confiance dans tout ce qui se touche à son existence, à sa présence ici-bas et juste dans l'éternité. Mais la lecture des Écritures nous montre d'une manière étonnante quand même que Dieu n'a pas fini de se révéler. Il n'a pas fini de surprendre Israël parce que il y a un gros problème avec le peuple d'Israël comme avec tous les autres êtres humains. Malgré le fait que Dieu se soit révélé dans toutes ses facettes, malgré le fait que Dieu soit devenu le Dieu d'Israël, et ils le disent, hein, et Dieu le dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Malgré le fait qu'Israël soit pleinement conscient, Israël est continuellement en train d'échapper à l'alliance avec Dieu. Il est incapable de rester fidèle à cette alliance. Pourtant, Dieu lui a montré à tant de reprises combien il l'aimait. Dieu lui a montré à tant de reprises qu'il était capable de les sortir des pires situations ici-bas sur cette terre. Mais il retombe continuellement dans les mêmes travers. Et c'est terrible d'entendre ce qu'Ésaïe nous dit au début de son livre, où il dit « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. » Voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà la réalité à laquelle Israël doit faire face et à laquelle nous devons faire face aussi personnellement. C'est un éternel recommencement, un cercle vicieux. Le fait de connaître El Shaddai, El Elyon, Adonai Ra, Adonai Jireh, ne change pas la nature profonde du problème. Israël ne s'en sort pas. Il est pris au piège par sa nature profonde qui est une nature de péché. C'est pas seulement les péchés que commet Israël. C'est la fabrique de péché qui est là au cœur des habitants du peuple d'Israël. Celle-ci l'entraîne continuellement en dehors de ses voies, en dehors des voies de Dieu, à côté de la cible. est le seul moyen que les leaders religieux vont trouver pour essayer de changer la tendance, c'est d'ajouter aux lois que Dieu a données encore d'autres lois. 613 en tout, des mitzvahs. 248 positifs, 365 négatifs. Fais ou ne fais pas. Et vous passez votre année à dire ne fais pas, fais, ne fais pas, ne fais pas, fais. Voilà la religion. Voilà dans quoi la religion peut conduire les hommes. C'est un fardeau écrasant, écrasant. Mais rien n'y fait. On ne peut pas juguler la chair, on ne peut pas l'enrayer, la stopper. Et cet état de fait aurait pu ou aurait dû pousser Israël à crier à l'Éternel en disant « Mais ce qu'il nous faut dans notre situation, puisqu'on est tout le temps en train de passer à côté de ta volonté, mais c'est un sauveur, quelqu'un qui vienne nous sauver de nos péchés une fois pour toutes. » Mais me direz-vous, mais Dieu a souvent sauvé Israël de l'esclavage de l'Égypte, hein, du désert dans lequel il s'enlisait, d'Amalek qui cherchait à les détruire. Mais ce qu'Israël avait besoin, c'est d'un sauveur qui les délivre de sa nature de péché. C'était son pire ennemi. C'est pas les nations environnantes, même s'ils ont eu beaucoup à partir avec ces nations. Mais c'était le péché en eux qui les conduisait continuellement dehors de la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que va faire Je suis? Avec tous les noms qu'il a révélés de qui il était. Et il en a encore un en réserve. Et pas des moindres. Il y a encore un nom qui manque à l'appel. Un seul nom qui va faire toute la différence. C'est au travers du prophète Esaïe et Michée, qui était contemporain, que Dieu annonce les choses à venir. Et on l'a rappelé ce matin. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur... Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Michée, oh toi Bethléem Ephrata, cette petite ville-là cachée un petit peu là dans les collines, mais petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Où ça va loin là, hein? C'est pas juste deux, trois générations là. On remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et enfin, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera. Et comme du temps de Pharaon, quand Dieu dit quelque chose, ça arrive, hein? Alléluia, hein? Au temps marqué, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Alors vous connaissez l'histoire, on ne va pas tout rappeler, mais Marie, sa mère, Marie, voilà, une simple femme. Marie, sa mère. Puis un ange du Seigneur lui apparaît. Wow. J'ai tout rêvé d'avoir une apparition d'ange. Mais voilà, tout est grâce sur grâce. Et puis cet ange lui annonce quelque chose d'invraisemblable. Mais essayez de vous mettre dans la peau de cette jeune femme. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà, c'est clair, c'est précis. Joseph et Marie, ils n'ont pas dû passer des jours entiers à compiler des dictionnaires de prénoms, non. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Voilà, c'est clair, c'est précis. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, l'Éternel est salut. Et jusqu'à ce moment-là, ce nom-là, il n'existait pas au panthéon des noms de Dieu. C'était Jésus, l'Éternel est salut. Bon, Yeshua, bien sûr, mais comme vous le savez, Jésus ne se contentera pas seulement de guérir des malades ou de délivrer des démoniaques. Sa mission première, son but premier en venant sur cette terre, c'est de nous libérer, c'est de nous sauver de nos péchés. Il est focalisé là-dessus et il est prêt à tout donner pour que, oui, il y ait enfin un changement radical. Parce que toutes ces lois et ces commandements, lui-même a dit mais aux hommes religieux, mais vous êtes en train de mettre des fardeaux sur les épaules des gens, vous n'êtes pas capable de les porter, toutes ces lois, mais vous demandez aux autres de le faire. C'est ignoble, c'est pas possible. C'est la religiosité, elle finit par écraser. Donc, Jésus vient. Et ce qui est extraordinaire, tu peux projeter l'image. Comme vous le savez, oui, Jésus, c'est l'Éternel qui sauve. Mais il ne vient pas avec un coup de baguette magique en disant « Ah, maintenant, hop, Israël, vous êtes sauvés, vous êtes délivrés de vos péchés à Deutéronome. » Hein? Jésus va payer un grand prix pour cela. Il va donner sa vie. Son sang, qui est le sang, c'est la vie. Hein? Son sang va couler. Et c'est extraordinaire de voir que, avant cela, dans ce magnifique rendez-vous avec cette femme samaritaine, elle lui dit mais je sais que tu es le Messie. Donc il y avait quelque chose qui était déposé dans le cœur des hommes déjà. Quand il viendra, il y a quelque chose qui va nous dire oui, c'est lui, ça y est. Hein? Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit mais je le suis moi qui te parle. Waouh, ça devait être... Je ne sais pas si elle a vraiment tout compris, la dame, mais... Donc, Jésus vient pour nous libérer. Il vient pour nous affranchir de la loi qui nous condamnait. Alors, béni soit Dieu pour la loi. Parce que c'est grâce à la loi que je sais que je suis pécheur, comme dit Paul. Je sais, parce que la loi me condamne. Elle me montre tout ce que je fais faux. Il n'y a pas que la police qui nous montre tout ce qu'on fait faux. Les lois nous montrent chaque fois qu'on sort d'une loi, on fait faux. Donc, il vient pour nous affranchir de cette loi, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, nous faire naître de nouveau, mettre en nous un esprit nouveau, et de re ou de faire ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être, des fils et des filles de Dieu. On n'aurait jamais dû. Ça valait pas la peine. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, est-ce que ça valait la peine de sortir du plan de Dieu, d'ignorer Dieu? On dépérissait. Et il vient pour faire de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, une nation sainte, un peuple acquis. Et donc c'est ce que Jésus va accomplir en donnant sa vie, en rançon pour beaucoup. Il paye le prix, mais il paye une seule fois. Et ça c'est l'extraordinaire bonne nouvelle aussi qu'on retrouve dans l'épître aux Hébreux. Il entre une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et là ça nous oblige à détourner nos regards de la crèche et à rechercher les choses d'en haut. Par la foi, nous recevons cette capacité de voir des choses que nos yeux humains ne voient pas. C'est les yeux de la foi. Et on voit ce qui se passe là-haut. On sait ce qui s'est passé là-haut. Et il est entré une seule fois dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et la conséquence, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La boucle est bouclée. On n'a pas à attendre un autre nom. Oh, c'est vrai, dans notre société, on court à gauche, il est là, on court à droite, il est là, encore un autre. Non, il est venu une seule fois. Il a donné sa vie une seule fois. Il a payé avec son sang une seule fois. Ça y est, le nom qui est au-dessus de tout nom a été révélé. Il est au-dessus de toute domination, autorité, dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au 21e siècle, il n'y a pas d'autre nom au-dessus de Jésus. Alors je termine. Et Israël dans tout cela? Parce que quand même, c'est aux Juifs premièrement que cet évangile était destiné. C'est ce que Paul dit dans l'épître aux Romains, c'était à eux, puis après aux Grecs, puis enfin aux chaudefonniers, et puis aux autres. Mais c'était d'abord aux Juifs. Et de manière totalement incompréhensible, Israël va passer à côté d'un signe incroyable que Dieu va lui accorder, et ce sera le dernier. Mettre là. Alors vous voyez, le je suis devient Jésus. Vous enlevez juste un i et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? Je vais terminer avec ça. Vous savez que à cause du problème du péché, chaque année, au mois d'octobre, à la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon, il faudrait mettre le sacrificateur. C'est marqué A, B, C. Voilà. à la fête du Yom Kippour, qu'est-ce qui se passait? C'était le moment solennel pour le peuple d'Israël. Chaque année, c'était le moment clé. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang d'un bouc qui avait été sacrifié. Et là, il se passait quelque chose de très particulier. Le prêtre, le souverain sacrificateur, devait à ce moment-là procéder à un tirage au sort. Dans une urne qui était là, il mettait la main droite, et si la main droite ressortait avec le nom La Hachem, ce qui veut dire pour le Seigneur, le peuple était pardonné. On savait que Dieu avait répondu favorablement à l'offrande qui était faite de ce sang de bouc. Par contre, alors ça devient vraiment intéressant. Si c'était la main gauche et qu'il tirait le mot La Azazel, c'est-à-dire le nom du bouc qui était chargé des péchés du peuple d'Israël, puis qu'on envoyait ensuite dans le désert, ça voulait dire que Dieu n'agréait pas le sacrifice. Donc c'était important. Il y avait un moment de suspense incroyable pour savoir si le souverain sacrificateur allait ressortir du lieu très saint. D'ailleurs, il a des clochettes. Hein? Puis quand on entendait le bruit des clochettes, c'est-à-dire, oh, il n'est pas tombé foudroyé par la puissance de Dieu. Il vient nous apporter une bonne nouvelle. Et ce qui est incroyable, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, moi je suis tombé des nues quand j'ai lu ça, quand j'ai trouvé ça aussi sur Internet, il y a le fameux traité de Yoma. Vous savez, dans la religion juive, vous avez bien sûr l'Ancien Testament, tout ça, et vous avez le Talmud, qui aux yeux des juifs en général, a la même valeur que la parole révélée. Parce que les sages d'Israël, les gens, les théologiens, tout ça, ont étudié tous ces textes et donnent l'interprétation juste, en fait, de ces textes. Et là, c'est absolument incroyable. On peut mettre le passage en français. Donc, voilà ce qui est écrit dans ce traité de Yoma, donc dans le Talmud. Et c'est pas les chrétiens qui ont écrit ça, c'est pas les musulmans, c'est les juifs. Il est dit, mais en français, s'il vous plaît. Elle y est. Ah, donc, ce que j'avais souligné en rouge, je voyais pas. Il est textuellement écrit. Mais pendant 40 ans précédant la destruction du temple, ça veut dire en 70, hein, la destruction du temple par les Romains. 40 ans avant, ça fait quoi? Ça fait 30 ans. 30. Hein. Mais pendant 40 ans précédant la destruction du temple, le sort de Dieu ne se pose pas du tout dans la main droite du souverain sacrificateur. Pendant 40 ans, Dieu n'agréait pas le sacrifice. Et ensuite, c'est la destruction du temple. Moi, je suis tombé des nues. J'ai dit, mais comment c'est possible qu'ils n'aient pas réalisé? Alors que ça ne tombe pas une année ou l'autre. On se dit, bon, ben voilà, puis je ne savais pas ce qu'ils faisaient hein, quand Dieu n'agréait pas le sacrifice. Ils étaient un peu mal. Hein. Mais pendant 40 ans, jusqu'à la destruction du temple, ça voulait signifier clairement que le Messie était venu, qu'il avait donné sa vie et que le Messie, c'était Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. C'est extraordinaire. Et c'est écrit noir sur blanc par des juifs. Alors bien sûr, Dieu dans sa grâce a encore un Yom Kippour pour le peuple d'Israël. Hein. Pendant des siècles et des siècles, ils ont été tenus de côté par rapport à cette grande révélation. Mais ce jour du grand pardon vient parce que c'est extraordinaire de voir le développement des églises de type messianique. En Israël, avant c'était aux États-Unis, on se dit, bon, ben, aux États-Unis. Mais maintenant, en Israël même, des dizaines et des dizaines d'églises maintenant, de croyants juifs qui croient en Jésus, en leur Messie. Hein? Et c'est ça, le Yom Kippour, c'est ça le jour du grand pardon pour eux. C'est de découvrir, en fait, le nom qui est au-dessus de tout nom. D'ailleurs, je pense que vous avez certainement lu, pour ceux qui sont un peu intéressés à Israël, un des plus grands rabbins d'Israël, de notre époque, qui est décédé il y a quelques années en arrière, a écrit le nom du Messie, il l'a mis dans une enveloppe et il a dit « Vous l'ouvrirez seulement quand je suis mort. » Alors bien sûr, tous ses disciples, ils ont obéi, ils ont accepté et tout. Puis le jour où il est mort, on a pu ouvrir la lettre et c'était le nom de Jésus. Donc il y a une très connaissance, un peu comme cette femme samaritaine qui dit mais le Messie est là, quoi. Enfin, il y a quelque chose en eux qui répond à ça. Donc voilà, c'est magnifique de voir que Israël aussi maintenant retrouve en fait cette relation grâce à ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est tellement beau de voir un juif qui découvre en fait toutes les facettes qui se trouvent en Jésus. C'est-à-dire qu'en lui, dans ce nom, vous avez tous les autres noms. Il concentre en fait dans sa personnalité l'ensemble. Alors je termine. J'ai une bonne nouvelle encore pour vous, ça va? Puisque c'est Noël, voilà. Si vous appartenez à Jésus, et je pense que c'est le cas, si ce n'est pas le cas, faites-le vite, parce que vous êtes en train de perdre beaucoup de choses autrement. Donc j'ai cité cette parole du naturaliste suédois, Carl von Linné, qui dit « La connaissance des choses périt par l'ignorance du nom. » Connaître le nom de Jésus, ce n'est pas juste traverser cette vie en étant assuré dans le nom de Jésus, en ayant confiance dans le nom de Jésus, en sachant qu'à tant de reprises, il nous a gardés, bénis, guéris, encouragés. Ce qui est extraordinaire, c'est la suite. Parce que là, c'est que les prémices, c'est qu'un petit début, c'est le 10% qu'on est en train de vivre. Le 100%, il sera là-haut. Et déjà maintenant, la parole nous invite à tourner nos regards vers la suite des choses, vers la suite des événements. Et si tu connais le nom de Jésus, donc tu n'es pas en train de périr, tu n'es pas en train de dépérir, au contraire. Il est dit que, et c'est Jésus qui l'a dit, votre nom est inscrit dans les cieux. Vous rendez compte? Ton nom, le tien, il est inscrit dans le ciel. Et c'est là qu'on voit combien Dieu nous aime quand il nous regarde en face, il connaît notre nom. Il aime à nous regarder en face et nous rappeler, voilà, je te connais. Je te connais par ton nom. Hein? C'est magnifique. Plus encore, il est dit qu'il les a écrits dans un livre spécial, le livre de vie. Moi, je dis, il y a une page, c'est marqué Alain Pilecki. Ta-da-da. Ta-da-da. Voilà. Donc, c'est qu'un bonheur de penser à l'avenir. Quand on se parle entre vieux maintenant, hein, là. On se dit, ouais, ben ça va bien, je ne suis pas trop bobo, c'est si, il y a une malade. Je dis, ok, mais lève un peu les regards plus haut. Quoi. Tout ça, ça va passer à un moment donné. Heureusement que ça passe. Et notre nom est écrit dans le livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc ça veut dire qu'il va me garder jusqu'au bout. Il va tout faire pour que je ne sorte pas de ce livre. Le livre de vie. Et enfin, en entrant dans la gloire, on recevra un nom nouveau et ineffable. C'est encore le mystère. J'aime parce qu'il y a encore des mystères. Hein, on ne sait pas tout. On sait assez de choses pour nous réjouir et pour persévérer. Mais il y a encore des petits mystères là. Hein. Un nom nouveau et ineffable. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Seigneur notre Dieu, quel beau cadeau. En ce jour de Noël, on se rappelle de tellement d'événements, de choses qui se sont produites sur cette terre. Mais quel beau cadeau, Père. Tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Aucun nom ne peut dépasser celui de Jésus. Dans tout l'univers, dans toute l'histoire de l'humanité. Seigneur, merci de nous avoir révélé ton nom. Et merci de tout ce qu'on a pu découvrir à partir de ce moment-là. Ta personnalité, qui tu es en vérité, ce que tu as prévu pour chacun de nous, ce que tu as préparé d'avance, ce que tu es prêt à faire jusqu'à la fin de nos jours ici-bas, même au travers de moments de souffrance, de difficulté. Je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur, vous bénisse.